Chapitre 3. Pendant les deux années qui suivirent, je vis de moins en moins souvent Derby. Une quinzaine pouvait passer sans qu'il ne vienne frapper à la porte d'entrée en utilisant le code habituel, 3 coups puis 2 coups. Et quand il venait, ou même, comme cela arrivait de plus en plus fréquemment, quand je passais chez lui, je le trouvais fort peu disposé à discuter de sujets importants. Il était devenu très secret à propos des études occultes qu'il décrivait pourtant jadis minutieusement, et préférait ne pas parler de sa femme. Elle avait énormément vieilli depuis son mariage, jusqu'à ce qu'elle finisse maintenant, étrangement, par paraître la plus âgée des deux. Son visage exprimait la détermination la plus farouche que j'ai jamais vue, et tout son aspect semblait inspirer une répulsion vague, difficile à décrire. Mon épouse et mon fils le remarquèrent autant que moi, et nous cessâmes peu à peu de demander à la voir, ce pourquoi, nous dit Edward, avec son manque de tact infantile, elle nous fut grandement reconnaissante. Parfois les Derby partaient pour de longs voyages, visiblement en Europe, bien qu'Edward fît parfois des allusions à des destinations plus mystérieuses. Ce fut après la première année que les gens commencèrent à parler de changement chez Edward Derby. C'était des propos anodins car le changement était purement psychologique, mais cela soulevait des points intéressants. Par moments, il semble qu'on ait observé chez Edward des expressions ou des actes totalement incompatibles avec son habituelle mollesse. Par exemple, bien qu'auparavant il n'ait jamais su conduire, on le voyait parfois entrer ou sortir de la propriété Crowning Shield à tombeau ouvert au volant de la puissante Packard Azenat, la maîtrisant parfaitement et louvoyant parmi les embouteillages avec une habileté et une détermination totalement étrangères à sa nature habituelle. Dans ces cas, il semble qu'il revenait tout juste d'un voyage ou qu'il en commençait un nouveau. Quelle sorte de voyage, personne ne le savait, bien qu'il semblât apprécier particulièrement la route d'Innsmouth. Bizarrement, cette métamorphose n'était pas particulièrement agréable. Les gens disaient qu'il ressemblait dans ces moments-là beaucoup trop à sa femme, ou au vieil Ephraim Waite lui-même. Mais peut-être ces moments semblaient-ils anormaux, justement parce qu'ils étaient si rares. Parfois, des heures après être sorti de cette façon, il rentrait, vautré nonchalamment sur le siège arrière de la voiture, conduite par un chauffeur ou un mécanicien visiblement engagé pour la circonstance. Pourtant, ce qui frappait chez lui quand on le croisait encore en ville, bien que ses relations sociales ne cessassent de se réduire, y compris, je dois le dire, les visites qu'il me faisait, c'était toujours son caractère indécis d'autrefois, avec sa puérilité irresponsable, encore plus que par le passé. Tandis que le visage d'Azenat vieillissait, Edward, à part en ces occasions exceptionnelles, s'abandonnait dans une sorte d'immaturité exagérée, parfois traversée par un éclair d'une tristesse ou d'une compréhension nouvelle. C'était très déconcertant. Dans le même temps, les Derby cessèrent pratiquement de fréquenter leur joyeux cercle du collège. Pas parce qu'ils en étaient eux-mêmes dégoûtés à ce qu'on entendait dire, mais parce que quelque chose dans les études qu'ils poursuivaient choquait même les plus endurcis de ces décadents. Ce fut au cours de la 3e année de son mariage qu'Edward commença à me faire des allusions claires à une certaine peur et à un mécontentement qu'il éprouvait. Il laissait entendre que les choses allaient trop loin et parlait sinistrement de la nécessité de regagner son identité. Au début, j'ignorais ses allusions, mais je finis par commencer à le questionner prudemment, me souvenant de ce que la fille de mon ami avait dit à propos de l'influence hypnotique d'Azenat sur les autres filles de l'école. Les cas où des étudiantes avaient pensé qu'elles étaient dans le corps d'Azenat, se voyant elles-mêmes à l'autre bout de la pièce. Il semblait à la fois inquiet et reconnaissant de mes questions, et une fois il bredouilla qu'il aurait avec moi un jour une sérieuse conversation. À ce moment mourut le vieux monsieur Derby, ce dont je devais plus tard lui être reconnaissant. Edward était très affecté, mais pas du tout perturbé. Il avait vu étonnamment peu sa famille depuis son mariage, car Azenat avait concentré en sa personne tous ses instincts de loyauté familiale. Certains le jugèrent insensible face à ce deuil, surtout depuis qu'il était devenu encore plus arrogant et désinvolte en voiture. Il voulait maintenant aller habiter le vieux manoir de famille, mais Azenat insistait pour rester dans la maison Crowning Shield à laquelle elle s'était habituée. Peu de temps après, ma femme entendit d'une amie, l'une des rares qui n'avait pas laissé tomber les Derby, une curieuse histoire. Elle était au bout de High Street pour rendre visite au couple, et avait vu une voiture sortir brusquement de l'allée, avec le visage d'Edward, trop confiant et presque méprisant, derrière le volant. Sonnant à la porte, elle s'entendit dire par la répugnante bonne qu'Azenat aussi était sorti. Mais elle lança en partant un regard vers la maison. Là, à l'une des fenêtres de la bibliothèque d'Edward, elle avait aperçu un visage qui s'était rapidement dissimulé. Un visage dont l'expression de douleur, de défaite et de mélancolique désespoir était poignante au-delà de toute description. Il s'agissait, chose incroyable en regard de son caractère dominateur, du visage d'Azenat. Pourtant, la visiteuse aurait juré qu'à ce moment, c'était les yeux tristes et confus du pauvre Edward qui la regardait. Les visites d'Edward devenaient maintenant un peu plus fréquentes et ses allusions devenaient parfois plus concrètes. Ce qu'il disait ne pouvait être cru, même dans cet Arkham archaïque et peuplé de légendes. Mais il étalait son ténébreux savoir avec une sincérité et une force de conviction qui me faisaient craindre pour sa santé mentale. Il parlait de rencontres terribles dans des endroits solitaires, de ruines cyclopéennes dans les forêts du Maine, sous lesquelles de vastes escaliers menaient à des abysses de ténébreux secrets, d'angles complexes qui conduisaient à travers des murs invisibles à d'autres régions de l'espace et du temps, de monstrueux échanges de personnalités qui permettaient l'exploration d'endroits lointains et interdits sur d'autres mondes et dans d'autres continuums espace-temps. Certaines fois, il me confirmait ces folles allusions en me montrant des objets qui me repoussèrent au plus haut point, des objets aux couleurs indéfinissables et à la texture déconcertante, comme jamais on en avait entendu parler sur Terre, et dont les folles courbes et surfaces ne pouvaient avoir aucune utilisation imaginable et ne suivaient aucune géométrie concevable. Ces choses, disait-il, venaient d'ailleurs, et sa femme savait se les procurer. Parfois, mais toujours dans un souffle terrifié et ambigu, il suggérait des choses à propos du vieil Ephraim Waite, qu'il avait autrefois vu occasionnellement à la bibliothèque du collège. Ses allusions n'étaient jamais précises, mais semblaient toujours tourner autour d'un doute horrible quant à la réalité de la mort du vieux magicien, dans le sens spirituel autant que dans le sens physique. Parfois Derby s'arrêtait soudainement dans ses révélations et je me demandais si Azenat pouvait vraiment avoir deviné à distance le sujet de la conversation et l'arrêter par quelque mesmérisme télépathique inconnu, un pouvoir du genre de ceux qu'elle avait montré à l'école. Certainement elle le suspectait de me faire des révélations, car les semaines passant elle essaya de mettre un terme à ses visites par des mots et des regards d'une puissance presque inexplicable. Il ne pouvait parvenir à me voir qu'avec difficulté, car bien qu'il prétendît se rendre ailleurs, une force invisible entravait généralement ses mouvements ou lui faisait oublier momentanément sa destination. Ses visites avaient généralement lieu quand Azenat était parti, dans son propre corps, comme il me le dit un jour curieusement. Elle s'en rendait toujours compte par la suite. Les serviteurs épiaient toutes les allées et venues d'Edward. Mais évidemment, elle pensait inapproprié de prendre des mesures radicales.